Chapitre 4. Le cylindre se dévisse. Quand je revins à la lande, le soleil se couchait. Des groupes épars se hâtaient, venant de Woking, et une ou deux personnes s'en retournaient. La foule autour du trou avait augmenté et se détachait noire sur le jaune pâle du ciel. 200 personnes environ. Des voix s'élevèrent et il sembla se produire une sorte de lutte alentour du trou. D'étranges idées me vinrent à l'esprit. Comme j'approchais, j'entendis la voix de Stent qui s'écriait « En arrière ! En arrière !» Un gamin arrivait en courant vers moi. « Ça remue, me dit-il en passant. Ça se dévisse tout seul. C'est du louche tout ça. Merci, je me sauve. » Je continuai ma route. Il y avait bien là, j'imagine, 200 ou 300 personnes, se pressant et se coudoyant, les quelques femmes n'étant en aucune façon les moins actives. « Il est tombé dans le trou !» cria quelqu'un. « En arrière !» crièrent des voix. La foule s'agita quelque peu, et en jouant des coudes, je me frayai un chemin entre les rangs pressés. Tout ce monde semblait grandement surexcité. J'entendis un bourdonnement particulier qui venait du trou. « Dites donc !» me cria Ogilvy. « Aidez-nous à maintenir ces idiots à distance. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans cette diable de chose. » Je vis un jeune homme que je reconnus pour un garçon de boutique de Woking, qui essayait de regrimper hors du trou dans lequel la foule l'avait poussé. Le sommet du cylindre continuait à se dévisser de l'intérieur. Déjà 50 centimètres de vis brillante paraissaient. Quelqu'un vint trébucher contre moi, et je faillis bien être précipité contre le cylindre. Je me retournai, et à ce moment le dévissage dut être au bout, car le couvercle tomba sur les graviers avec un choc retentissant. J'opposais solidement mon coude à la personne qui se trouvait derrière moi et tournais mes regards vers la chose. Pendant un moment, cette cavité circulaire sembla parfaitement noire. J'avais le soleil dans les yeux. Je crois que tout le monde s'attendait à voir surgir un homme, possiblement quelque être un peu différent des hommes terrestres, mais en ses parties essentielles, un homme. Je sais que c'était mon cas, mais regardant attentivement, je vis bientôt quelque chose remuer dans l'ombre, des mouvements incertains et houleux, l'un par-dessus l'autre, puis deux disques lumineux comme des yeux. Enfin, une chose qui ressemblait à un petit serpent gris, de la grosseur environ d'une canne ordinaire, se déroula hors d'une masse repliée et se tortilla dans l'air de mon côté. Puis ce fut le tour d'une autre. Un frisson soudain me passa par tout le corps. Une femme derrière moi poussa un cri aigu. Je me tournai à moitié, sans quitter des yeux le cylindre, hors duquel d'autres tentacules surgissaient maintenant, et je commençai à coups de coude à me frayer un chemin en arrière du bord. Je vis l'étonnement faire place à l'horreur sur les faces des gens qui m'entouraient. J'entendis de tous côtés des exclamations confuses, et il y eut un mouvement général de recul. Le jeune boutiquier se hissait à grands efforts sur le bord du trou, et tout à coup je me trouvai seul, tandis que de l'autre côté, les gens s'enfuyaient, et Stent parmi eux. Je reportai les yeux vers le cylindre, et une irrésistible terreur s'empara de moi. Je demeurai ainsi pétrifié et les yeux fixes. Une grosse masse grisâtre et ronde, de la grosseur à peu près d'un ours, s'élevait lentement et péniblement hors du cylindre. Au moment où elle parut en pleine lumière, elle eut des reflets de cuir mouillé. Deux grands yeux sombres me regardaient fixement. L'ensemble de la masse était rond et possédait pour ainsi dire une face. Il y avait sous les yeux une bouche dont les bords sans lèvres tremblotaient, s'agitaient et laissaient échapper une sorte de salive. Le corps palpitait et haletait convulsivement. Un appendice tentaculaire, long et mou, agrippa le bord du cylindre et un autre se balança dans l'air. Ceux qui n'ont jamais vu de martien vivant peuvent difficilement s'imaginer l'horreur étrange de leur aspect, leur bouche singulière en forme de V, et la lèvre supérieure pointue, le manque de front, l'absence de menton au-dessous de la lèvre inférieure en coin, le remuement incessant de cette bouche, le groupe gorgonesque des tentacules, la respiration tumultueuse des poumons dans une atmosphère différente, leurs mouvements lourds et pénibles, à cause de l'énergie plus grande de la pesanteur sur la terre et par-dessus tout l'extraordinaire intensité de leurs yeux énormes. Tout cela me produisit un effet qui tenait de la nausée. Il y avait quelque chose de fougueux dans la peau brune huileuse, quelque chose d'inexprimablement terrible dans la maladroite assurance de leurs lents mouvements. Même à cette première rencontre, je fus saisi de dégoût et d'épouvante. Soudain, le monstre disparut. Il avait chancelé sur le bord du cylindre et dégringolé dans le trou avec un bruit semblable à celui que produirait une grosse masse de cuir. Je l'entendis pousser un singulier cri rauque et immédiatement après, une autre de ces créatures apparut vaguement dans l'ombre épaisse de l'ouverture. Alors mon accès de terreur cessa. Je me détournai et, dans une course folle, m'élançai vers le premier groupe d'arbres, à environ 100 mètres de là. Mais je courais obliquement et en trébuchant, car je ne pouvais détourner mes regards de ces choses. Parmi quelques jeunes sapins et des buissons de genêt, je m'arrêtai haletant, anxieux de ce qui allait se produire. La lande autour du trou était couverte de gens épars, comme moi à demi fascinés de terreur, épiant ces créatures, ou plutôt l'amas de gravier bordant le trou dans lequel elles étaient. Alors, avec une horreur nouvelle, je vis un objet rond et noir s'agiter au bord du talus. C'était la tête du boutiquier qui était tombée dans la fosse, et cette tête semblait un petit point noir contre les flammes du ciel occidental. Il parvint à sortir une épaule et un genou, mais il parut retomber de nouveau, et sa tête seule resta visible. Soudain, il disparut, et je m'imaginais qu'un faible cri venait jusqu'à moi. Une impulsion irraisonnée m'ordonna d'aller à son aide, sans que je pusse surmonter mes craintes. Tout devint alors invisible, caché dans la fosse profonde, et par le tas de sable que la chute du cylindre avait amoncelé. Quiconque serait venu par la route de Chobham ou de Woking eût été fort étonné de voir une centaine de gens environ, en un grand cercle irrégulier dissimulé dans des fossés, derrière des buissons, des barrières, des haies, ne se parlant que par cris brefs et rapides, et les yeux fixés obstinément sur quelques tas de sable. La brouette de provisions, épave baroque, était restée sur le talus, noire contre le ciel en feu, et dans le chemin creux, était une rangée de véhicules abandonnés, dont les chevaux frappaient de leurs sabots le sol ou achevaient la pitance d'avoine de leurs musettes. Chapitre 5. Le rayon ardent. Après le coup d'œil que j'avais pu jeter sur les Martiens émergeant du cylindre, dans lequel ils étaient venus de leur planète sur la Terre, une sorte de fascination paralysa mes actes. Je demeurai là, enfoncé jusqu'aux genoux dans la bruyère, les yeux fixés sur le monticule qui les cachait. En moi, la crainte et la curiosité se livraient bataille. Je n'osais pas retourner directement vers le trou, mais j'avais l'ardent désir de voir ce qui s'y passait. Je m'avançai donc, décrivant une grande courbe, cherchant les points avantageux, observant continuellement les tas de sable qui dérobaient au regard ces visiteurs inattendus de notre planète. Un instant, un fouet de mince lanière noire passa rapidement devant le soleil couchant et disparut aussitôt après. Une légère tige éleva l'une après l'autre ses articulations, au sommet desquelles un disque circulaire se mit à tourner avec un mouvement régulier. Que se passait-il donc dans ce trou? La plupart des spectateurs avaient fini par se rassembler en deux groupes. L'un, une petite troupe du côté de Woking, l'autre, une bande de gens dans la direction de Chobham. Évidemment, le même conflit mental les agitait. Autour de moi, quelques personnes se trouvaient disséminées. Je passai près d'un de mes voisins, dont je ne connaissais pas le nom, et il m'arrêta. Mais ce n'était guère le moment d'engager une conversation bien nette. « Quelle vilaine brute !» dit-il. « Bon Dieu, quelle vilaine brute !» Il répéta cela à plusieurs reprises. « Avez-vous vu quelqu'un tomber dans le trou ?» demandai-je. Il ne me répondit pas. Nous restâmes silencieux et attentifs pendant un long moment, côte à côte, éprouvant, j'imagine, un certain réconfort à notre mutuelle compagnie. Alors je changeai de place, m'installant sur un renflement de terrain qui me donnait l'avantage d'un mètre ou deux d'élévation, et quand je cherchais les yeux mon compagnon, je l'aperçus qui retournait à Woking. Le couchant devint crépuscule avant que rien d'autre ne se fût produit. La foule au loin, sur la gauche de Woking, semblait s'accroître et j'entendais maintenant son bruit confus. La petite bande des gens vers Chobham se dispersa, mais aucun indice de mouvement ne venait du cylindre. Ce fut cette circonstance, plus qu'autre chose, qui rendit aux gens du courage. Je suppose que les curieux qui arrivaient constamment de Woking contribuèrent aussi à relever la confiance. En tous les cas, comme l'ombre tombait, un mouvement lent et intermittent commença sur la lande, un mouvement qui se précipita à mesure que la tranquillité du soir restait ininterrompue autour du cylindre. De verticales formes noires, par deux ou trois, s'avançaient, s'arrêtaient, observaient, avançaient de nouveau, s'étendant de cette façon en un mince croissant irrégulier qui semblait vouloir cerner le trou en rapprochant ses pointes de mon côté. Je commençais aussi à me diriger vers la fosse. Alors j'aperçus quelques cochers et autres conducteurs d'attelage qui menaient hardiment leurs véhicules à travers les carrières. Et j'entendis le bruit des sabots et le grincement des roues. Je vis un gamin emmener la brouette de provisions. Puis, à moins de 30 mètres du trou, venant du côté de Horsall, je remarquai une petite troupe d'hommes, et celui qui marchait en tête agitait un drapeau blanc. C'était la députation. On avait hâtivement tenu conseil, et puisque les Martiens étaient, en dépit de leur forme répulsive, des créatures intelligentes, on avait résolu de leur montrer, en s'approchant d'eux avec des signaux, que nous aussi nous étions intelligents. Le drapeau battait au vent, et la troupe s'avança à droite d'abord, puis elle tourna à gauche. J'étais trop loin pour reconnaître personne, mais j'appris par la suite qu'Ogilvy, Stent et Henderson avaient tenté avec d'autres cet essai de communication. Dans leur marche, ils avaient rétréci, pour ainsi dire, la circonférence maintenant à peu près ininterrompue de gens, et un certain nombre de vagues formes noires les suivaient à un intervalle discret. Tout à coup, il y eut un soudain jet de lumière, et une fumée grisâtre et lumineuse sortit du trou en trois bouffées distinctes qui, l'une après l'autre, montèrent se perdre dans l'air tranquille. Cette fumée, il serait peut-être plus exact de dire cette flamme, était si brillante que le ciel, d'un bleu profond au-dessus de nos têtes, et que la lande, sombre et brumeuse avec ses bouquets de pins du côté de Chertsey, parurent s'obscurcir brusquement quand ces bouffées s'élevèrent, et restaient plus sombres après leur disparition. Au même moment, une sorte de bruit pareil à un sifflement devint perceptible. De l'autre côté de la fosse, la petite troupe de gens qui précédait le drapeau blanc s'était arrêtée à la vue du phénomène, poignée de petites formes verticales et sombres sur le sol noirâtre. Quand la fumée verte monta, leurs faces s'éclairèrent d'un vert pâle et s'effacèrent à nouveau dès qu'elle se fut évanouie. Alors, lentement, le sifflement devint un bourdonnement, un interminable bruit retentissant et monotone. Lentement, un objet de forme bossue s'éleva hors du trou, et une sorte de rayon lumineux s'élança en tremblotant. Aussitôt des jets de réelles flammes, des lueurs brillantes sautant de l'un à l'autre, jaillirent du groupe d'hommes dispersés. On eût dit que quelque invisible jet se heurtait contre eux, et que du choc naissait une flamme blanche. Il semblait que chacun d'eux fût soudain et momentanément changé en flamme. À la clarté de leur propre destruction, je les vis chanceler et s'affaisser, et ceux qui les suivaient s'enfuirent en courant. Je demeurai stupéfait, ne comprenant pas encore que c'était la mort qui sautait d'un homme à un autre dans cette petite troupe éloignée. J'avais seulement l'impression que c'était quelque chose d'étrange, un jet de lumière sans bruit presque, et qui faisait s'affaisser, inanimé, tous ceux qui l'atteignaient. Et de même, quand l'invisible trait ardent passait sur eux, les pins flambaient, et tous les buissons de genêts secs s'enflammaient avec un bruit sourd. Dans le lointain, vers Knaphill, j'apercevais les lueurs soudaines d'arbres, de haies et de chalets de bois qui prenaient feu. Rapidement et régulièrement, cette mort flamboyante, cette invisible, inévitable épée de flamme, décrivait sa courbe. Je m'aperçus qu'elle venait vers moi aux buissons enflammés qu'elle touchait, et j'étais trop effrayé et stupéfié pour bouger. J'entendis les crépitements du feu dans les carrières et le soudain hennissement de douleur d'un cheval qui fut immobilisé aussitôt. Il semblait qu'un doigt invisible et pourtant intensément brûlant était étendu à travers la bruyère entre les Martiens et moi. Et tout au long d'une ligne courbe, au-delà des carrières, le sol sombre fumait et craquait. Quelque chose tomba avec fracas, au loin sur la gauche, où la route qui va à la gare de Woking entre sur la lande. Presque aussitôt, le sifflement et le bourdonnement cessèrent, et l'objet noir en forme de dôme s'enfonça lentement dans le trou où il disparut. Tout ceci s'était produit avec une telle rapidité que je restais là immobile, abasourdi et ébloui par les jets de lumière. Si cette mort avait décrit un cercle entier, j'aurais été certainement tué par surprise. Mais elle s'arrêta et m'épargna, laissant tomber sur moi la nuit soudainement sombre et hostile. La lande ondulée semblait maintenant obscurcie jusqu'aux pires ténèbres. Excepté aux endroits où les routes qui la parcouraient s'étendaient grises et pâles sous le ciel bleu foncé de la nuit. Tout était noir et désert. Au-dessus de ma tête, une à une, les étoiles s'assemblaient, et dans l'ouest, le ciel brillait encore, pâle et presque verdâtre. Les cimes des pins et les toits de Horsall se découpaient nets et noirs contre l'arrière-clarté occidentale. Les Martiens et leur matériel étaient complètement invisibles, excepté la tige mince sur laquelle leur miroir s'agitait incessamment en un mouvement irrégulier. Des taillis de buissons et d'arbres isolés fumaient et brûlaient encore, ici et là, et les maisons, du côté de la gare de Woking, envoyaient des spirales de flammes dans la tranquillité de l'air nocturne. À part cela, et ma terrible stupéfaction, rien d'autre n'était changé. Le petit groupe de taches noires qui suivait le drapeau blanc avait été simplement supprimé de l'existence, et le calme du soir, me semblait-il, avait à peine été troublé. Je m'aperçus que j'étais là, sur cette lande obscure, sans aide, sans secours et seul. Soudain, comme quelque chose qui tombe sur vous à l'improviste, la peur me prit. Avec un effort, je me retournai et m'élançai en une course trébuchante à travers la bruyère. La peur que j'avais n'était pas une crainte rationnelle, mais une terreur panique, non seulement des Martiens, mais de l'obscurité et du silence qui m'entouraient. Elle produisit sur moi un si extraordinaire effet d'abattement qu'en courant je pleurais silencieusement comme un enfant. Maintenant que j'avais tourné le dos, je n'osais plus regarder en arrière. Je me souviens d'avoir eu la singulière impression que l'on se jouait de moi, et qu'au moment où j'atteindrais la limite du danger, cette mort mystérieuse, aussi soudaine que l'éclair, allait surgir du cylindre et me frapper.